France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est une histoire de famille, de fratrie, avec pas mal de hasard, de l'arbitraire, beaucoup de temps qui passe et des services sociaux problématiques. Une histoire dont la fin ou la morale est pleine d'enseignements, assez claire sur ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire avec les enfants. Une histoire qui se passe à la fin des années 60, mais depuis, la loi a changé. Officiellement, depuis 1996, le Code civil précise que, je cite, « l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et les sœurs. » Et c'est encore mieux depuis 2022, car ce principe de la non-séparation des fratries s'applique aussi en cas de placement. C'est la loi Taquet, du nom du député Adrien Taquet. Mais dans les faits, la disposition n'est pas toujours appliquée, car il manque souvent de la place dans les familles d'accueil et dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance. Mais pour l'instant, on retourne dans le Calvados au début des années 70. Il y a une vieille armoire normande, un livret de famille et un secret, évidemment. Et c'est un reportage de Karine Lelouette.
Je m'appelle Frédéric Sellos, j'habite à Caen et j'ai 59 ans. Alors, j'ai grandi avec ma mère et ma grand-mère, et nous vivions chez ma grand-mère, qui tenait un café, et j'allais au collège qui était juste à côté du café, et j'ai vécu dans cette ambiance jusqu'à l'âge de 20 ans, donc élevé par ces deux femmes. Mais ma mère était pas trop souvent là présente, et c'est surtout ma grand-mère qui m'a élevé. Ma mère, bon, déjà, elle était un peu artiste, professeur de dessin d'ailleurs, de dessin d'art. Je pense aussi qu'elle aimait beaucoup sortir, donc peut-être qu'elle était souvent sollicitée. Elle avait certainement un vrai problème dans son rapport aux hommes, parce qu'elle n'arrivait pas à trouver, à se stabiliser avec un homme. J'ai grandi dans un sur-amour, je sais pas si ça se dit, c'est toujours bien occupé de moi. J'étais le petit garçon, un peu trop couvé, quoi. Et donc, on m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, mais je n'ai jamais posé de question, par exemple, de savoir qui était mon père. Parce que je sentais qu'il y avait une chape de plomb. Et ma mère, en fait, dès qu'elle avait des contradictions, elle se mettait en colère. J'ai vécu des colères de ma mère, mais je ne comprenais pas le sens. On part en vacances et découvre dans une location que des assiettes sont sales. Plutôt que de les laver, elle va voir l'agence qui avait loué le studio et elle fait un esclandre pas possible au point que moi j'ai la honte, quoi, en fait. En fait, j'avais la honte tout le temps, mais c'était ma mère. Et puis, les années sont passées et donc jusqu'à l'âge, jusqu'à ce que je devienne prof de PS, j'obtiens le concours en 1994. J'étais bien, j'étais prof, tout se passait bien. Puis j'ai essayé de construire une vie de couple, c'était pas simple, avec une mère comme ça. Et puis, les relations entre ma mère et moi ont commencé à se dégrader. Et ma mère, du coup, sa maladie, qui a été expliquée après, a repris, enfin, une paranoïa, qui s'est transformée aussi en schizophrénie. J'arrive à la faire interner en hôpital psychiatrique pour qu'on s'occupe d'elle. Ma mère est placée sous tutelle. Et la tutrice décide de vendre tous ses biens, donc toutes ses maisons, pour financer l'EHPAD. Je l'apprends. Et le jour de l'achat, parce que j'ai monté une SCI avec deux associés pour acheter les maisons, on va visiter les maisons avant de signer pour voir si elles sont vraiment vides. Et à l'intérieur d'une des maisons de ma mère, il y a une armoire normande. Et j'ai mon associé qui ouvre l'armoire, qui voit un coffre-fort, un petit coffre-fort, qui était fracturé, elle l'ouvre, et là, elle me donne trois documents. Un livret de famille, et là, il y a le nom de ma mère. Je tourne une page, et là, je découvre un Jean-Marc Sellos, né le 9 août 1968, à Flers, et né à 3h15. Là, je comprends pas. Et là, je regarde tout le monde, et c'est qui, ça? Et Jean-Marc Sellos, Frédéric Sellos, moi je suis né en 66, lui né en 68, là tout de suite, dans l'instant. Et je vois, il y a deux autres documents, il y a une notice d'abandon. Comment on s'y prend pour abandonner un enfant? Et il y a un autre document, comme quoi ma mère, en 1970, est convoquée par le directeur de la DAS pour parler de la situation de ses deux enfants, et plus particulièrement celle de Jean-Marc, qui est en nourrice chez une dame qui s'appelle Madame Germont, cité Charlot, à Flers. Donc là, j'ai des informations. Ma mère a eu un deuxième enfant. J'ai un frère quelque part, un demi-frère donc. J'ai 56 ans à l'époque. Ce que j'ai dit, c'est... elle m'aura tout fait. Je suis estomaqué. Mais quelque part, inconsciemment, je sais aussi que c'est ma grand-mère qui a mis la chape de plomb. Cette grand-mère que je chérissais comme une mère. Pourquoi elles m'ont pas tout dit ça? Elles me disent pas qui est mon père, elles me disent pas que j'ai un frère. La première réflexion qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi moi plus que lui ou pourquoi lui plus que moi? Je trouve ça pas juste... de me choisir moi plus que lui, quoi. Et je décide de trouver qui est cette dame Germont qui habite à Flers et qui a élevé mon frère pendant ses 4 premières années. Je vois une dame Germont, Françoise, dans l'annuaire. J'appelle. Alors, madame, la fille, hein, c'est la fille parce que madame Germont est décédée. En décrochant, je me présente, Frédéric Sellos. Oh, le frère de Jean-Marc. Eh ben, elle me dit, il faut qu'on se rencontre, j'ai des photos de Jean-Marc à l'âge de 4 ans. Faut qu'on... Donc elle m'accueille chez elle, on a passé une après-midi ensemble. Cette dame Germont me donne tout plein d'informations. On échange, elle m'explique qui était Jean-Marc, comment Jean-Marc a vécu pendant 4 ans. Elle me dit, mais vous êtes même venu à l'âge de 2 ans peut-être dans la maison et vous l'avez côtoyé. Et mais naturellement, j'ai aucun souvenir. Et donc... j'ai une photo. Elle dit plein de choses, cette photo. C'est Jean-Marc, il est à l'école. Il a une bonne bouille de petit gamin adorable. Et donc, elle me raconte tout ça. Elle me donne ses photos, elle me donne ses dessins quand il était à l'école des Oisillons. Et puis, Madame Germont me raconte que dans l'année 73, alors elle ne se souvenait plus exactement des dates, mais c'était dans cette année-là, eh bien, une assistante sociale venait chercher régulièrement Jean-Marc pour qu'il aille rencontrer sa nouvelle famille. Eh ben, elle dit, voilà, ça a été une rupture pour nous énorme parce que on vient le chercher, puis un jour, il n'est jamais revenu, quoi. Et puis, je repars avec ça, puis je lui dis, écoutez, je vais essayer de le trouver. Et du coup, psychologiquement, je suis pas... j'ai pas l'énergie, je trouve pas cette énergie. 2022-2024, il m'a fallu quand même 2 ans pour aller plus loin dans la quête de ce frère. Et à ce moment-là, j'appelle l'ASE. Je tombe sur une dame. Vous me dites comment Ben non, on n'a pas de dossier Jean-Marc, né en 68. Bon, bah écoutez, envoyez-nous les documents que vous avez. Et puis, donc, je décide de les envoyer. 15 jours ou 3 semaines plus tard, je reçois un coup de fil de l'ASE. Une dame superbe, Madame Moisy. Elle me dit on a le dossier de Jean-Marc. Je dis, ah bon? Et puis moi, je savais aussi que, en tant que frangin, j'avais aucun droit de consulter quoi que ce soit. Donc elle me dit, bon ben voilà, qu'est-ce que vous comptez faire? Ben, je dis, écoutez, je suis coincé. Je sais simplement qu'il a été placé à la DAS en 73, que c'est certainement une famille de l'Orne qui l'a adopté, et donc j'ai un ami, François, qui est journaliste à Ouest-France, qui depuis 2 ans me propose de faire un article de journal pour qu'on essaye de retrouver Jean-Marc. Elle me dit, ça c'est une excellente idée. Vous savez, il n'y a pas que l'Orne. Hein. L'Orne, c'est très joli, mais on a de très belles côtes en Normandie. Et les côtes de la Manche sont particulièrement belles. Elle a voulu m'aider, quoi. Alors, j'appelle François, j'ai dit, attends... bon, on le fait cet article, ça y est, je suis déterminé, on y va. Il me dit, Fred, pas de problème, ton histoire est incroyable. Tu vas carrément faire un éditorial, plus la dernière page de Ouest France avec une publication à 500 000 exemplaires. Moi, j'en demande pas tant, moi. Il me dit, bah oui, mais tout le monde veut t'aider. François fait un super article. Et puis, le temps passe, un ou deux mois. François, mon copain journaliste, est contacté par une dame passionnée de généalogie qui s'occupe d'un site sur Facebook, « Je te recherche », un truc comme ça. Et là, elle lui donne un nom, une commune, un lieu de naissance, et tout correspond. Un enfant qui s'appelle Jean-Marc, né un 9 août 1968, à 3h15 du matin. Ça peut être que lui. Donc j'ai confirmation que mon frère a été adopté par une famille de 40 ans, dans la Manche, donc pas loin des côtes, des belles côtes de la Manche, qu'il s'appelle Jean-Marc Lehec. Et puis, avec mon ami François, on cherche s'il n'y a pas des articles de journaux sur lui. Et on en trouve un, comme quoi il est maître nageur sauveteur en 2005 à la piscine de Caen. J'ai dit, mes amis, c'est pas possible. Moi, je suis nageur, je suis prof de PS, j'ai été travailler dans ce gymnase, dans cette piscine. Je l'ai forcément côtoyé, quoi. Donc, je commence à interroger, parce que je connais du monde à Caen. Et on me dit, on voit très bien qui c'est, mais par contre, on le voit plus sur le bord des bassins. Et puis, j'ai un copain, je l'appelle, j'ai dit, est-ce que tu peux savoir si un Jean-Marc Lehec est dans le listing des personnels de la mairie de Caen? Il me dit, comment tu dis? Il regarde, il dit, oui, il y a un Jean-Marc Lehec. Donc, je sais qu'il travaille à Caen. Vous savez, j'ai toujours rêvé toute ma vie qu'un jour, quelqu'un frappe à ma porte en me disant, je suis ton père. Bon, là, peut-être que ce sera mon frère. Et puis, je lui écris une lettre pour lui dire qui je suis, qu'il a un frère et que j'aimerais le rencontrer. J'ai envoyé à l'adresse que j'avais de son papa et sa maman, là où il a grandi. Un mois se passe, deux mois se passent, trois mois se passent. Donc là, résigné, je me dis, voilà, c'est mon destin. Je ne saurai jamais qui est mon frère. Et puis, le 6 juillet dernier, j'ai un message sur mon téléphone, je suis en Allemagne. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Lehec, je suis devant chez vous. J'ai eu connaissance de votre lettre hier, j'aimerais vous rencontrer. J'ai dit, écoutez, je suis désolé, je suis à 1000 bornes d'ici, mais je rentre mercredi, si vous voulez, on peut se voir mercredi. On s'est rencontré le mercredi qui a suivi. Donc, il vient chez moi, je lui ouvre la porte, je dis bienvenue. Bienvenue Jean-Marc, on se vous voit. On va sur la terrasse. Et j'ai dit, j'ai plein de choses à te dire, du coup. À vous dire, parce qu'on sait vous voyez. Et là, il se met à pleurer. Donc il va marcher, il revient au bout de 3-4 minutes. Et puis c'est parti, je lui montre ses documents, je lui montre qui il est, qui il a été de 0 à 5 ans. Et en fait, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que d'avoir quelqu'un en face de vous à qui vous lui révélez sa vie. C'est extraordinaire. Donc quand on s'est quitté, il m'a laissé un message. Merci Frédéric pour le vide que tu viens de combler en moi. Et le lendemain matin, j'avais un autre message. Bonne journée, grand frère. Je rappelle Madame Moisy de la DAS. Puis elle me dit, écoutez, c'est très simple. Pour consulter le dossier de Jean-Marc, il suffit qu'il fasse la demande ou qu'il vous mandate. Donc on y est allés tous les deux. Et puis on a consulté son dossier, et puis là on a découvert plein de choses. On a découvert que notre mère, au bout de 3 mois, se rétracte et envoie une lettre à la DAS comme quoi elle veut garder Jean-Marc. Du coup, elle dit qu'elle va le garder, mais elle ne vient pas le voir. Et donc l'assistante sociale, dans son rapport, inscrit le fait que Madame Sellos n'a certainement pas l'instinct maternel. Et puis, là-dessus, il décide d'engager l'acte d'abandon, l'administration. Pourquoi moi, elle me garde et lui, elle l'abandonne? Et pourquoi pas l'inverse? Je suis né le premier. Le deuxième arrive, elle n'a pas les moyens financiers, il n'y a pas la famille autour d'elle qui l'aide. Et puis, il y a en plus une empreinte judéo-chrétienne très, très acerbée du côté de la famille de ma mère. Est-ce qu'on la pousse à abandonner Jean-Marc? On ne sait pas, on ne saura jamais. Ce qui est sûr, même si j'en veux énormément à ma mère, elle a des circonstances atténuantes, c'est évident. Parce que être une femme dans son cas, en plus avec des perturbations psychologiques, en 1966, 68, 70, et après, je peux vous dire, ça ne doit pas être facile. Alors, on est demi-frères, mais Moi, je l'appelle frérot, lui, il m'appelle grand frère. Ça y est, la famille s'est agrandie. On a fêté les 19 ans de ma fille. Il y avait les enfants de ma copine. Il y avait lui et sa femme. On a fêté son anniversaire avec sa fille Cassandre. Enfin bon, on se voit au moins une fois par semaine, ouais. On mange ensemble. Donc, ouais, forcément, ça comble un vide. Ben, j'étais un enfant unique toute ma vie, moi. Comme Jean-Marc, d'ailleurs. Puis maintenant, il n'est plus tout seul. Je ne suis plus tout seul non plus. Depuis 2 ans, je cherche. Même 3 ans. Je suis grand frère. C'est chouette.
France Culture. Les pieds sur terre.
Je m'appelle Jean-Marc Lehec. J'ai 57 ans et j'habite à Caen. Eh bien, les tout premiers souvenirs, ce sont des souvenirs d'un foyer de la DAS. Une dame qui serrait les chaussures, que j'allais voir quand ça allait pas bien. Une grande pièce avec des tables, où quand il y avait des fois des échauffourées, j'allais me cacher dessous. C'est vrai qu'au foyer, il y a eu une dame, elle jouait du martinet, je prenais des coups de martinet, et elle me tordait très très fort le bras. Cette dame, après mon départ, a fini par être licenciée parce qu'elle a fini par casser le bras d'un autre enfant. J'y ai séjourné un an et demi maximum. Et en fait, avant, j'étais dans une famille d'accueil. Sinon, j'ai un autre souvenir. C'est deux jeunes filles, quand j'étais au foyer, qui m'ont appelé au fond de la cour, qui était sur un petit muret, et qui m'ont dit que j'allais avoir des vrais parents. Voilà. J'ai été adopté à 5 ans et demi, de façon plénière, ce qui fait que je suis devenu leur fils tout à fait légitime. Mes parents adoptifs, Anne-Marie et Michel Lehec, ils ont travaillé toute leur vie, quasiment tous les deux dans la même entreprise, avec vente et entretien de produits et matériel agricole. Donc mon père était mécanicien agricole, et donc ma mère travaillait dans cette entreprise-là, elle était secrétaire comptable de l'entreprise. Mes parents adoptifs ont été parfaits. Avec eux, il n'y a jamais eu la moindre violence, le moindre propos désobligeant. Ils ont tout fait pour moi. Mais comme dans toutes les familles, il y a des problèmes. C'était le petit frère de ma mère qui était une pourriture infâme. Voilà. Avec moi. En fait, il ne me supportait pas, en fait. Et il faisait croire à tout le monde qu'il m'adorait. Il me contorsionnait. Il faisait semblant un peu de jouer à la bagarre, mais il me faisait mal. Et quand on allait se promener, des fois, moi, je m'amusais, je prenais des photos, je traînais un peu, c'est vrai. Mais j'étais à 200 mètres, il me disait « Allez, on rentre !» Il me criait comme ça « Allez, on y va !» Puis il se barrait. Je ne comprenais pas ce qui se passait, forcément. Donc, il a commencé dès mes 6 ans, hein, dès que je suis arrivé chez mes parents, hein, dès 6-7 ans. Donc, voilà, un pauvre type, quoi. Quand je suis arrivé dans la famille, moi, je l'ai compris petit à petit, je l'ai dérangé, cet individu. Voilà. Je l'ai dérangé. Mes parents ont tellement été bons, par respect pour eux, parce que ça se passait tellement bien avec eux, j'ai pas du tout abordé le sujet de mes origines. Par contre, j'avais toujours ça à l'esprit, parce que dès que j'ai eu mon permis, sans le dire à qui que ce soit, je suis allé à Alençon, voir le foyer. Je voulais essayer de retrouver mes parents biologiques, en fait. Voilà. Et j'y suis allé 3-4 fois, mais j'y suis allé à des périodes où il y avait quasiment personne. Donc, j'ai pas pu avoir beaucoup d'informations. Voilà. Et j'ai appelé la DAS, et je suis tombé sur quelqu'un à qui j'ai dit que j'étais né sous X et que je voulais retrouver mes origines, mes parents biologiques. Et la réponse qui m'a été faite à l'époque, c'est que né sous X, on n'a aucune chance d'y arriver. Ben, j'ai laissé tomber l'affaire, en fait. J'ai suivi ma vie, voilà, donc j'ai laissé tomber. Et c'était cette année, en fait, en 2025. Cette lettre, je crois que Frédéric l'a envoyée au mois de mars, et elle m'est parvenue que début juillet. Parce que cette lettre, elle n'était pas arrivée dans la bonne boîte aux lettres. La maison où il pensait que j'habitais encore, à l'adresse qu'il avait, est une maison que j'ai dû vendre, qui était la maison de mes parents adoptifs, parce que je ne pouvais pas la mettre dans un état louable. Donc j'ai préféré la vendre. Et la personne ou les personnes qui ont découvert ce courrier dans la boîte aux lettres me l'ont fait parvenir. Et donc, en fait, quand j'ai pris mon courrier ce jour-là, elle était dedans, j'ai regardé rapidement, Et donc, je ne l'ai pas ouverte. Par contre, mon épouse regarde, elle. Et donc, elle me dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis, elle me dit, il y a une lettre bizarre. Elle me dit, je ne sais pas, tu connais ? Ben, je dis, non, je ne connais pas, mais bon, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Et le soir, elle me dit, mais t'ouvres pas ton courrier. Alors, moi, non, je suis comme ça, voilà. Des fois, j'ai pas envie de l'ouvrir, voilà. Donc, j'attends. Elle, elle me dit, mais ouvre-le quand même. Elle me dit, elle insiste tellement que je me dis, bon, bah, je vais l'ouvrir, ce courrier, quoi. Bon, j'ouvre deux ou trois choses. Et puis là, j'arrive sur cette enveloppe, et puis, donc, je l'ouvre. Et je comprends juste en diagonale que je sais pas, c'est quelqu'un qui me cherche. Je lui dis, c'est rien. Puis je la ferme et je me couche. Et elle, elle m'a dit, mais comment ça, il y a quelqu'un qui te cherche? Et elle, elle a voulu la lire. Elle la lit, et à la fin, elle me dit, mais attends, mais c'est important ce courrier-là, c'est, t'as un frère quelque part qui te cherche. Et ma réaction, bah, elle a été assez bizarre, en fait. Déjà, j'avais enterré l'affaire, et puis ayant croisé quand même pas mal de pourriture dans ma vie, la pensée se rapprochait de quelque chose comme il manquerait plus que je tombe sur quelqu'un de compliqué qui vienne m'ajouter encore des problèmes. Et j'ai dit, bah pff, oui, peut-être, très bien, bah, je verrai ça demain. Et en fait, ça m'a empêché de dormir. Et on n'a pas dormi de la nuit. Et on est allé voir tout ce qu'on pouvait sur ce Frédéric Sellos. Sur un tas de choses, en fait, elle a fait des recherches. À chaque fois, elle me disait, regarde, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. Apparemment, il habite Caen. Et donc, je tape l'adresse, ça me parlait un peu, mais sans plus. Et pour cause que ça me parlait, parce que je suis passé quand même quelques fois. Et en fait, elle, mon frère, il s'est avéré qu'il habitait à deux rues de chez moi, quoi, à Caen. Et moi, quand c'est comme ça, j'aime pas, j'aime ni le téléphone, ni le courrier, j'aime bien aller voir les choses directement, quoi. Et donc, je suis venu ici directement chez lui. Voilà. Il n'était pas là. Donc, comme il y avait son numéro de téléphone, je lui ai laissé un message. Et puis voilà. Et on s'est donné rendez-vous le mercredi suivant. Dans ma tête, c'était, c'est quelqu'un de bien, ça va. Je sens que ça ne le fait pas. C'est pas grave. Il continue sa vie, je continue la mienne. Et par contre, quand je suis venu, j'ai pris conscience, quand il m'a sorti tout ce qu'il avait trouvé de documents dans ses recherches, j'ai pris conscience que, qu'il y avait un vrai vide. En fait, ce vide que je pensais combler avec mes parents adoptifs, en fait, il était toujours là, en fait. Et il était intact, en fait. Je l'avais juste occulté. Quand il me montre tous ces documents, mon frère, ce qui se passe, c'est que, instantanément, le vide réapparaît, en fait. Et je me sens très mal. En prenant conscience qu'il venait instantanément de me le recombler. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai eu le sentiment, non plus d'être différent des autres, comme je l'ai toujours eu dans ma vie, et d'un seul coup, je me suis dit, ben maintenant, je suis comme les autres. Je connais ma mère, j'ai un frère, je sais d'où je viens. Très vite, j'ai compris donc ma mère était encore en vie. Et en fait, j'ai juste eu envie de la voir, quoi. Mon frère, comme entre lui et notre mère, c'est tendu, parce que forcément, il lui en veut de m'avoir caché, en fait, hein, voilà. Mais il a tout fait pour répondre à mes besoins, en fait. Voilà. Et on est allé à Argentan, puisqu'elle habite à Argentan, la voir, mais très très vite. C'est, je crois que ça a pris moins de 15 jours, je crois. Voilà. Et en fait, moi, ça m'a tracassé pendant toute la semaine qui a précédé le jour où on allait la voir, parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Et donc, j'y suis allé en disant bonjour. Vous êtes bien Madame Sellos. Donc, je lui dis, vous avez un homme heureux devant vous, et même l'homme le plus heureux du monde, aujourd'hui. Et elle me dit, ah bon, mais pourquoi? Eh bien, je lui dis, parce que, à ma naissance, je m'appelais Jean-Marc Pierre Sellos. Et donc, elle me fait « Ah, c'est vous ». Donc, peut-être qu'elle s'attendait à ce qu'un jour, mon frère finisse par me retrouver, je ne sais pas. Elle m'a accueilli de façon très agréable, en fait. Et on a parlé de choses et d'autres. Je sais qu'elle m'a demandé très vite est-ce que j'avais été heureux. Voilà. Donc, je m'attendais un peu à cette question. Et je lui ai dit, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous avez pris la bonne décision. J'ai été très heureux. Alors, j'ai un peu menti, hein, bien sûr. Mais vous avez pris la bonne décision. J'ai été très heureux. Et les parents qui m'ont adopté étaient des gens très bien. Et ben très vite, comme avec Frédéric, en fait, j'ai suivi le mouvement. Et je me suis senti très bien. Je me suis senti très bien. Et je pense qu'elle s'est sentie très bien aussi, mais avec toujours une énorme souffrance. Je pense qu'il y a même plus que de la souffrance, il y a de la culpabilité, je pense. Et quand moi je sais ce que je sais aujourd'hui, par le dossier un peu, hein, par des éléments plus concrets, elle n'a vraiment pas été aidée, quoi. C'est-à-dire qu'elle a voulu faire marche arrière, elle n'était pas dans les délais légaux. Tout ça a été compliqué, mon adoption était sûrement déjà en route. Elle est submergée par les difficultés. C'était une mère seule, avec deux enfants, dont un qui était déjà en famille d'accueil, qui n'était pas du tout aidante à ce niveau-là, quoi. Même plutôt l'inverse. On a eu la même envie, tous les deux, de créer une relation saine entre deux frères, en fait. Parler de temps perdu n'a aucun sens. Donc rattraper du temps perdu, ça n'a aucun sens. On n'est vraiment pas là-dessus. On est sur le courant passe bien. On a les mêmes valeurs. Il a deux filles, j'ai donc deux nièces. J'ai deux filles, il a deux nièces. On prend le train en marche, en fait. Voilà.
C'était « Deux frères et un secret », un reportage de Karine Lelouette, réalisé par Perret Legras. Merci à Frédéric Sellos et à Jean-Marc Lehec, ainsi qu'en particulier à François Baucher, qui est le journaliste de Ouest France. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy, et notre nouvelle stagiaire, c'est Mina Morel. Qu'elle soit la bienvenue.
one who